Chers amis, apparemment nous pouvons reprendre le cours de notre étude et voir les derniers versets de ce chapitre. L'histoire continue ainsi. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Daniel, en continuant à prier comme d'habitude, sans se cacher, a bien sûr encouru la vindicte de ses opposants. Mais en réalité, s'il s'était caché, il l'aurait trouvé quand même. Par contre, il force le respect du roi. Et le roi le lui dit. Il lui dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Tu n'as pas essayé de passer à côté. Tu as continué dans ta relation avec Dieu comme d'habitude. Et vous voyez, le roi le reconnaît. Le roi reconnaît que c'est parce qu'il a été constant avec Dieu qu'il est piégé. Et vous comprenez bien que pour le roi, la constance de Daniel à l'égard de son Dieu est un gage de sa constance à l'égard du roi. Par conséquent, il sait qu'il perd là le meilleur de ses alliés. La mort dans l'âme, il va accepter d'amener Daniel au supplice. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et il est probable qu'effectivement les ennemis de Daniel ont exigé qu'il y ait des preuves que quelqu'un n'allait pas venir gaver les lions pour éviter la mort de Daniel, ou alors sortir Daniel pendant la nuit. Donc ils ont vraiment veillé à ce que l'exécution ne soit absolu et ne souffre aucun retard ni risque. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Alors, ce qui a été traduit par concubine, là, c'est le mot d'Achawan, dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, et les différents interprètes ou les différentes personnes qui se sont intéressées à ce sujet ont prétendu pour certaines que c'était non pas des concubines mais des friandises, c'était un repas. D'autres ont prétendu que c'était des danseuses simplement, c'est-à-dire qu'il y avait normalement une certaine fête. Il y avait le coucher du roi, comme pour Louis XIV. Et donc, il y avait là peut-être quelque chose qui relevait des danseuses, des friandises, je ne sais. Mais enfin, il y avait tout un cérémonial qu'il a complètement refusé. Et non seulement il l'a refusé, mais il n'a pas trouvé le sommeil. Alors, le roi se leva précipitamment au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Vous voyez, les ennemis de Daniel étaient allés précipitamment chez lui, et puis ils étaient allés précipitamment chez le roi. Maintenant, c'est le roi qui se dépêche. Et vous voyez qu'il ne garde pas là sa dignité de roi, son cœur est touché. Mais pourquoi se précipite-t-il à la fosse aux lions? Est-ce que quelque part il n'y a pas là un début de foi, un début d'espérance? Est-ce qu'il n'espère pas un peu contre toute espérance? Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Au fond, il l'exprime, il l'espère, mais on ne sait pas bien s'il y croit. Mais quand même, il se précipite dès le matin vers la fosse aux lions. Et il va interpeller Daniel. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il n'espère pas trop de réponse, il l'espère sans l'espérer. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant. » Et il a retenu la leçon. Et vous savez que c'est une des leçons que Nebuchadnezzar déjà avait retirées de son contact avec Daniel. Le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est un Dieu vivant, est un Dieu qui intervient, est un Dieu qui communique et à la fin est un Dieu qui sauve. Alors, voilà, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ? Le Dieu vivant. Je vous rappelle qu'en Daniel 5, au moment du festin de Belshazzar, il est dit qu'ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et la réflexion de Daniel à ce moment-là consiste à dire « Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voies. » Et même avant, me semble-t-il, on avait la notion de Dieu vivant. Alors on le retrouve dans le Deutéronome, mais on le trouve aussi dans Jérémie. « Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Que tu sers avec persévérance, il faut constater que c'est ce qui a perdu Daniel qui lui vaut maintenant l'estime du roi. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Salutation traditionnelle, nous l'avons dit, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Daniel confirme qu'il n'a rien à se reprocher devant le roi, mais je crois que le roi le sait bien et que ça ne pose aucun problème à ce moment de la rencontre. Alors le roi fut très joyeux. Vous vous rappelez qu'il était arrivé, qu'il avait parlé à Daniel d'une voix triste. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et là, nous voyons que Dieu, quand Dieu accomplit le miracle est total, il est complet. Vous vous rappelez que les trois jeunes Hébreux n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux quand ils sont sortis de la fournaise ardente. Eh bien, quand Daniel sort de la fosse aux lions, il n'a pas une égratignure. Il n'a pas dû se défendre, il n'a pas dû user de ruse, il n'a pas dû gaver les lions avant pour qu'ils ne lui sautent pas dessus. Il ne les a pas endormis de quelque manière que ce soit. C'est Dieu qui a fait le miracle, et il fait un miracle probant, un miracle sans appel, un miracle qui n'est pas contredit, qui ne peut être contredit par personne. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel et qui avaient insisté, vous vous rappelez, alors que le roi essayait de le sauver, donc qui avaient voulu la mort de Daniel jusqu'au bout, quitte à déplaire au roi, ces hommes-là furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisèrent tous leurs os. Autant dire que les lions n'étaient pas gavés. Bien évidemment, cet acte-là de jeter la femme et les enfants avec ceux qui avaient cherché à tuer Daniel n'est pas dans nos mœurs maintenant. Et je ne pense pas, vous le savez, que Daniel l'aurait souhaité non plus, puisque nous voyons qu'il a cherché à sauver les sages de Babylone dès qu'il l'a pu, en allant tout de suite auprès d'Arjok. Mais voilà, c'était les mœurs de l'époque, et ils ont joué avec le feu, ces hommes-là. Mais loin de moi l'idée d'approuver, de quelque manière que ce soit, ces actes de cette nature. Avançons maintenant, et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Est-ce que vous notez qu'il a la même manière de s'adresser à tous ces peuples qu'avait Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, à la fin du chapitre 3, se pose en défenseur de Dieu. Celui qui ne respectera pas ou qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Début du chapitre 4, il est converti. Et il va dire, il va commencer sa lettre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Eh bien, ces choses-là étaient certainement connues, puisque Darius va faire la même chose. Et une fois de plus, vous voyez qu'il s'adresse à tous les pays. Par conséquent, ce n'est pas un roi vassal de Cyrus. C'est un roi qui règne sur tout l'empire médo-perse. Et nous allons essayer de comprendre quelle est la situation dans ce cadre-là. Que la paix vous soit donnée avec abondance, ça nous rappelle le texte de Nebuchadnezzar. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Ça, c'est ce qui les marque. C'est la plus belle chose que Daniel a pu témoigner auprès de ses potentats. Est-ce qu'autour de nous, on peut dire le Dieu de Jean-Paul, le Dieu de un tel, le Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Est-ce que nous sommes le reflet de ce que nous suivons, un Dieu vivant? Alors c'est un Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Vous rappelez-vous du problème de Nebuchadnezzar? Et là, on voit que cette chose-là est reprise directement des idées qui avaient été diffusées par Nebuchadnezzar. Le problème de Nebuchadnezzar était la suite à donner à son royaume. Et il espérait, lui, être non seulement la tête d'or, mais toute la statue d'or. Il espérait mettre en place un système qui dure et qui dure éternellement. Et il a dû reconnaître que le seul royaume éternel était celui de Dieu. Et Darius le Mède reprend cette chose-là. Donc son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Je vous rappelle les paroles de Nebuchadnezzar. Dans le temps de ses rois, ou l'explication de Daniel, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Vous avez reconnu dans cette description la pierre qui se détachait de la montagne, sans le secours d'aucune main. Que ces signes sont grands, que ces prodiges puissants, son règne est un règne éternel, disait Nebuchadnezzar, et sa domination subsiste de génération en génération. Ça, c'était le début de sa lettre. Et la fin de sa lettre reprend le même thème. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nous avons là la preuve que la lettre de Nebuchadnezzar a marqué les esprits et en particulier Darius le Mède. Mais Darius le Mède va retenir aussi un autre aspect de ce Dieu vivant, de ce Dieu dont le royaume est éternel, c'est lui qui délivre et qui sauve. Comme il avait sauvé les trois jeunes Hébreux de la fournaise ardente, eh bien là il en a une preuve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il faut reconnaître que c'est un miracle tout à fait extraordinaire. Et la fidélité de Daniel a permis finalement à ce potentat de vivre une expérience unique. Et donc il va en tenir compte et il est tellement impressionné qu'il fait cette lettre universelle. C'est lui qui délivre et qui sauve. Eh bien, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, disaient les trois jeunes Hébreux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Le récit donne le sentiment d'une continuité entre les règnes de Darius le Mède et de Cyrus le Perse, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Simplement, j'aimerais attirer votre attention dans les minutes qui viennent sur un certain nombre de faits archéologiques ou sur le fait d'histoire qui montrent que ce personnage de Darius le Mède, même s'il n'est jamais cité dans aucun document, a certainement existé par quelques petits indices qui nous sont donnés par l'archéologie. Le premier indice, j'aimerais le tirer de la parole de Dieu elle-même. Je ne sais si vous vous rappelez le texte d'Esdras au sujet du décret de Cyrus. Et il dit, la première année de son règne, Cyrus fit un décret qui permit aux Juifs de retourner dans leur pays. Or, si nous suivons les historiens grecs traditionnels, Cyrus a commencé à régner avec la prise de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Or, le décret a été donné en 537 avant Jésus-Christ, 2 ans après. On devrait donc être là la troisième année de son règne. Eh bien, Esdras nous dit que c'est la première année de son règne. Qui donc a régné entre 539, prise de Babylone, par Cyrus, et 537, date de sa première année? Et vous voyez qu'il y a là un espace qui doit être forcément comblé par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, si nous voulons bien écouter Xénophon, c'était un personnage qui était un roi des Mèdes et qui s'appelait Cyaxare II. Pour Daniel, il s'appelait Darius. Alors pourquoi cette différence de nom? Ça, c'est un problème. Mais certains pensent que le terme de Darius, avant de devenir le nom d'un roi, était un nom d'un grade militaire, c'est-à-dire par exemple le commandant ou le général, et que donc ensuite il est devenu un nom de personnage, hein, si vous voulez, un nom de roi. Maintenant, en dehors des sources bibliques, nous avons un autre élément, la stèle d'Aran. Alors la stèle d'Aran, c'est une stèle qui a été écrite par Nabonide, le dernier roi officiel, et 2 ou 3 ans avant la chute de Babylone, il a écrit un texte où il se plaint de ce que tous les rois lui sont opposés. Il faut dire qu'il a dressé contre lui la caste des prêtres, parce que normalement il y avait une fête de Nouvel An, Et le roi devait être à Babylone pour qu'il y ait cette fête, pour que cette fête puisse se célébrer. Et lui, au lieu de venir à Babylone, rester dans son oasis de Théma et refuser de venir. Alors du coup, les prêtres ne pouvaient pas faire cette fête et petit à petit, d'année en année, la colère est montée. Et d'ailleurs, quand Cyrus a pris Babylone, il a fait valoir qu'il avait réinitialisé le culte de Marduk. Et donc il a été, peut-être c'était aussi un peu publicitaire, hein, mais il a été accueilli à bras ouverts et comme un sauveur par les habitants de Babylone. Donc cette stèle d'Aran, écrite par Nabonide, mentionne 3 ans avant la chute de Babylone que des pays étrangers et des rois étrangers lui sont hostiles. Et en particulier, un roi de Médie. Or, Cyrus n'a jamais été roi de Médie. Il y avait donc avant un roi de Médie. Quel est ce roi? Cyrus avait battu son grand-père, Astyage, depuis longtemps, depuis les années 550, et donc 3 ans avant la prise de Babylone, l'histoire ne nous parle pas d'un roi de Médie, sauf que la stèle d'Aran nous en parle. Deuxième élément, c'est qu'on a des bas-reliefs qui nous montrent que les princes perses et les princes mèdes, on les voit marcher la main dans la main. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une relation pacifique. L'histoire que nous donne Hérodote nous donne une image plus guerrière de la passation de pouvoir entre les Mèdes et les Perses. Alors que Xénophon nous dit que les choses se sont passées en douceur. Et voilà comment nous les raconte Xénophon. Il nous dit que Cyrus, comme à son habitude d'ailleurs, comme il l'a fait dans de nombreux cas, n'a pas détrôné le roi vaincu. Il a vaincu Astyage, son grand-père, le père de sa mère, mais il ne l'a pas tué. Il semble même qu'il lui aurait confié une province, bon, peu importe, mais il ne l'a pas détruit et il n'a pas non plus détruit la dynastie. C'était son grand-père. Et donc celui qui a régné à sa suite, ce serait ce Cyaxare II, le frère de sa mère, Mandane, donc son oncle. Et il se trouve que ce Cyaxare n'avait pas d'héritier mâle. Et Cyrus a pris de plus en plus d'importance. Il était chef de l'armée. Il était roi, bien sûr, de son territoire d'Anshan, mais il était chef de l'armée médo-perse, une fois qu'il a fait l'union. Et il y avait à Ecbatane le roi en titre, Cyaxare II. Et puis il y avait le chef des armées qui avait de plus en plus de succès. Vous avez un exemple semblable avec David et Saül dans la Bible. Et de plus en plus de succès au point que quand il a pris Babylone, ses troupes l'ont proclamé roi. D'où l'idée qu'il est devenu roi et que sa première année se situe à la chute de Babylone. Or, il n'a pas pris tous ces titres-là à ce moment-là. Et Xénophon nous raconte une autre histoire, il nous dit, mais en réalité, sa femme venait de mourir et Cyaxare lui a proposé sa fille comme épouse, une certaine Amytis. Et donc, de nouveau, on créait des liens. Alors, il n'avait pas d'héritier, il avait un neveu qui avait des succès guerriers remarquables, il n'avait pas d'héritier mâle, il n'avait qu'une fille qu'il lui a donnée, et donc, comme dot, il lui a donné tout l'empire. Alors Cyrus, Cyrus n'avait qu'à attendre la mort de son oncle et beau-père pour recevoir tout le royaume en héritage. Et c'est ce qui s'est passé, et ça s'est passé en douceur. Et c'est ce que nous suggère le texte de Daniel, c'est ce que nous dit en clair Xénophon, Ce n'est pas ce que nous dit Hérodote. Quelle leçon peut-on tirer de cela? Je pourrais vous citer d'autres éléments. En particulier, on dit qu'il n'y a aucune citation du roi Darius le Mède, mais un auteur beaucoup plus tardif fait un commentaire sur une pièce qui porte le nom de Darius. Et il dit que ça doit remonter à Darius Ier, donc le premier qui a porté ce nom dans la lignée des Perses, mais ça vient peut-être d'un roi plus ancien dont il a eu vaguement connaissance et qui s'appelait aussi Darius. Et vous voyez donc qu'il y a quelques indices comme cela. Et je crois que tous ces indices nous montrent que le livre de Daniel est parfaitement au clair sur ce qui s'est passé à ce moment-là, alors que ni les historiens grecs, ni ceux qui ont suivi, ni bien sûr un éventuel faussaire au deuxième siècle avant Jésus-Christ, n'auraient pu savoir. Il fallait vivre à la cour de Babylone, et il fallait vivre à la cour de ses rois pour voir la réalité de ces choses. Xénophon, comment savait-il plus qu'Hérodote? Eh bien, il avait été un mercenaire d'une compagnie de 10 000 personnes, de 10 000 mercenaires grecs, qui était venu en dette à un certain Cyrus, beaucoup plus tardif, qui appartenait à la famille royale de Cyrus et des Achéménides, mais qui finalement n'a pas régné. Il était donc au contact intime de cette famille et il a reçu tous les renseignements relatifs à cette famille. Hérodote, de son côté, nous dit qu'il a reçu 4 versions de cette histoire. Il en a choisi une, celle qui lui apparaît la plus probable. Mais vous voyez, il n'y a pas d'élément direct, pas de certitude. Et tout le monde a enfourché l'histoire derrière Hérodote. Eh bien, je crois qu'il nous faut avoir ce culot, si j'ose dire, d'avoir la foi et de croire que ce texte est fidèle. Et ne pas toujours suivre la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. Elle n'a peut-être même pas souvent raison. Et par conséquent, je crois que cette parole de Dieu, même si elle nous met dans une situation minoritaire, doit nous faire dire, au bout du compte, celui qui me donnera raison, parce que c'est la parole de Dieu, qui donnera raison à la parole de Dieu, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui sait tous les chemins, tous les secrets, et qui sait les révéler le moment venu. Alors, il y aurait encore d'autres détails qu'on pourrait donner sur le plan historique, mais je voulais vous en donner quelques-uns pour vous dire. Si on vous dit le livre de Daniel, c'est un ramassis de contes de fées. Non, ça n'est surtout pas cela. C'est au contraire un texte qui n'a pu être écrit que par quelqu'un qui côtoyait ces familles régnantes et qu'il a fait avec beaucoup de précision. Merci de votre attention.